les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Oui, donc nous sommes au Forum des médias indépendants et là, ben, nous sommes au stand de la Maison des lanceurs d'alerte avec Cléo. Bonjour Cléo.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Maison des lanceurs d'alerte, quand ça a été créé, par qui ?
Yes, bien sûr. Du coup, c'est une association qui a été créée en 2018 par un consortium de syndicats et d'associations et de médias aussi. Ça arrive 2 ans après la publication de la première loi de protection des lanceurs et lanceuses d'alerte en France. Et l'idée, c'était d'avoir une association qui permette aux lanceurs et aux lanceuses d'alerte de bénéficier des protections attachées à la loi.
Et du coup, c'est une association qui a été créée par plusieurs organisations, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Il va y avoir... Bah, c'était beaucoup de syndicats, donc... Les gros syndicats, CFDT, CGT, Sud, etc. Mais aussi des médias ou d'autres associations comme Anticor, Sherpa, Greenpeace, etc.
Et au quotidien, du coup, vous faites quoi ? Vous soutenez les lanceurs d'alerte, vous les défendez ?
C'est ça, on va avoir une activité de... Le gros de notre activité, ça va vraiment être l'accompagnement et le soutien aux personnes qui ont lancé l'alerte. Ça va être un soutien juridique pour les aider dans leur procédure, pour les aider surtout à se défendre des représailles qu'ils et elles subissent du fait d'avoir lancé l'alerte. Et on va aussi avoir un soutien psychologique, social et médiatique pour aider aussi à accompagner les personnes, si jamais ils ou elles le souhaitent, à se produire dans les médias. Et aussi, on va avoir des activités de plaidoyer pour... améliorer la situation des lanceurs et lanceuses d'alerte en France.
Et comment est-ce que vous travaillez ? Parce que je pense qu'il peut y avoir des fois des faux ou des fausses lanceurs et lanceuses d'alerte qui viennent vers vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail d'enquête autour de la personne et de ce qu'elle dénonce ?
Tout à fait. Du coup, on reçoit beaucoup, beaucoup de signalements de personnes qui nous contactent sur une plateforme sécurisée. L'année dernière, on en a reçu 550 et évidemment, parmi ces 550, beaucoup sont faits par des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Et du coup, effectivement, il y a un gros travail d'instruction qui est effectué. On va demander les pièces pour essayer de reconstituer et voir si jamais la personne, oui ou non, rentre bien dans le cadre de la loi. Donc, si jamais elle a bien effectué un signalement dans les conditions prévues par la loi.
Et sur ces 500 et quelques personnes qui sont allées vers vous l'année dernière, au final, combien répondaient aux critères ? Et est-ce que vous avez pu les suivre, les défendre chacune d'entre elles ? Ou est-ce que vous êtes obligé encore vous de faire une sélection parce que vous n'avez pas les moyens, le temps, l'énergie de suivre tout le monde ?
Alors parmi ces 500 personnes, finalement le nombre de personnes qu'on a réellement reconnues comme lanceuses d'alerte au sens de la loi, finalement, il est assez faible. C'est juste une trentaine de personnes. Il y a vraiment un énorme élagage, soit des gens qui ont fait des signalements un peu farfelus, soit juste qui, malheureusement, ne rentraient pas dans les conditions prévues par la loi. Mais par contre, sur toutes les personnes qu'on a considérées rentrer dans le cadre de la loi, toutes ont eu un suivi individuel. On a pu produire des écrits pour alimenter leurs procédures, par exemple, les aider sur vers quelle procédure se tourner pour se défendre, comment effectuer des signalements dans les conditions prévues par la loi si jamais les signalements n'avaient pas encore été effectués. Donc on a des effectifs limités, mais on essaie de faire le maximum pour que chaque personne qui rentre dans le cadre de la loi puisse vraiment avoir le plus de suivi et de protection possible.
Dans votre document de présentation, vous dites que justement la Maison des lanceurs d'alerte a activement participé à l'élaboration de la loi du 21 mars 2022, dite loi Wasserman, c'est ça ? C'est de cette loi-là dont vous parlez ?
C'est ça, tout à fait. Du coup, le cadre législatif en France, il date d'abord de 2016, avec la loi Sapin 2, mais qui était en réalité assez inopérante. Ensuite, il y a une directive européenne en 2019 que la France a transposée en 2022. Du coup, en effet, la Maison des lanceurs d'alerte a contribué à l'élaboration de cette loi. Et cette loi de 2022, c'est aujourd'hui le fondement du cadre protecteur des lanceurs et lanceuses d'alerte en France.
Et est-ce que cette loi est satisfaisante ? Est-ce que vous pensez qu'il faut encore aller plus loin puisqu'il y a une trentaine de personnes, entre guillemets, qui rentraient dans les critères de cette loi. Est-ce que les autres personnes, entre guillemets, ne sont pas considérées même en dehors de cette loi comme des lanceurs d'alerte, ou justement, ou est-ce qu'il faudrait encore aller plus loin dans leur protection ?
Alors, je pense qu'il faudrait aller plus loin dans leur protection et que la loi est assez incomplète dans comment elle est faite. Il y a des personnes qui auraient pu rentrer dans les conditions prévues par la loi, mais qui n'en sont pas rentrées. Mais le principal problème, c'est vraiment l'inefficience des protections qui sont des protections qui sont principalement a posteriori et qui en fait donnent surtout des arguments devant un juge en cas de contestation d'une mesure de représailles. Par exemple, si jamais on est licencié, du fait d'un signalement qu'on a effectué, on peut aller devant un juge et dire ce licenciement est une mesure de représailles du fait du signalement que j'ai effectué, donc mon licenciement doit être considéré comme nul. Mais il n'existe pas de protection a priori. Par exemple, avec l'équivalent du salarié protégé de l'élu syndical. Donc en fait, les protections, elles existent uniquement une fois qu'on a subi des représailles pour aller les contester devant un juge, ce qui fait que c'est assez limité et que finalement, les personnes se retrouvent dans des longues batailles juridiques juste pour voir leurs droits respectés à un niveau très faible en réalité. Il faut aussi convaincre des juridictions, c'est beaucoup de travail. Et du coup, c'est vraiment sur le renforcement des protections que nous, on milite. Après, vu le contexte politique, on se pose la question de la pertinence de l'ouverture des débats sur la loi, puisque ça pourrait être aussi encore réduit. On a vu cet exemple, par exemple, sur la loi sur la question de la responsabilité des grandes entreprises, la responsabilité sociale, où en fait la réouverture du débat sur la loi a amené à une réduction de la portée de la loi, donc on souhaite aussi éviter ça. Mais en tout cas, on estime aujourd'hui que la loi, même si jamais elle est intéressante et qu'elle offre certains outils, est encore à ce jour pas suffisamment opérante pour assurer une protection véritable.
Je pense qu'il doit y avoir plusieurs niveaux de lanceurs d'alerte, non ? Ou plusieurs niveaux aussi de menaces concernant ces lanceurs d'alerte. Moi, j'ai eu vent d'une ou deux personnes qui justement travaillaient plutôt pour l'industrie de la pharmacie, entre guillemets, les big pharma, comme on dit, qui du coup avaient eu énormément de menaces, mais même physiques, envers leur entourage, menaces de mort. Et puis, il y a d'autres personnes qui apparemment, c'est plutôt des dénonciations en interne dans une entreprise, c'est ça. Donc il y a vraiment plusieurs échelles comme ça. Et est-ce que vous avez aussi, entre guillemets, un accompagnement qui peut être progressif selon le statut du lanceur d'alerte et ce qu'il dénonce ?
Alors, on ne va pas faire de distinction en fonction des faits dénoncés. Malheureusement, sur la question des violences et menaces physiques, on a un impact qui est assez limité, ou à part soutenir la personne et essayer d'être là pour elle ou de lui offrir un accompagnement psychologique, on est assez démunis face à ces cas. Le principal outil qu'on va utiliser, c'est vraiment le droit, donc ça va surtout être sur la question de la contestation des mesures de représailles que j'évoquais avant, mais sur les autres versants, c'est compliqué pour nous d'avoir un impact, surtout en effet quand on se bat contre soit des énormes groupes, soit contre parfois l'administration aussi, qui est quand même une machine très puissante et dont il faut où on est assez petit par rapport à ces grosses institutions, on va dire.
Donc là, aujourd'hui, on est à Rennes pour le Forum des médias indépendants. Là, sur votre stand, vous avez un guide pratique pour journalistes et lanceurs, lanceuses d'alerte. Donc, est-ce que tu as en tête quelques exemples de journalistes qui ont été considérés comme des lanceurs d'alerte et avec lesquels vous avez travaillé ?
Alors, les journalistes ne rentrent pas dans le statut de lanceur d'alerte. Il y a certaines conditions à respecter, mais le régime n'a pas été fait pour les journalistes. Notre guide, c'est surtout pour accompagner les journalistes pour qu'ils puissent eux-mêmes accompagner les lanceurs et lanceuses d'alerte qui vont être aux sources dans le cadre d'une enquête, etc. Puisque en cas de divulgation mal maîtrisée, ça peut retomber sur la personne qui a lancé l'alerte et qui peut par exemple se voir privée de protection si jamais son alerte sort dans la presse trop rapidement sans respect d'une certaine procédure à suivre. Et du coup, ce guide, il sert surtout à aider les journalistes à mieux accompagner les lanceurs et lanceuses d'alerte qui leur servent de source.
Parce que là, parmi les partenaires, organisations membres de la Maison des lanceurs d'alerte, hein, donc dans les membres fondateurs, on voit par exemple des syndicats, il y a également Greenpeace. Donc vous pouvez réorienter entre guillemets les lanceurs et lanceuses d'alerte vers certaines de ces structures pour être défendus. J'ai vu qu'il y avait aussi Sherpa, si je ne me trompe pas. Il y a aussi justement un soutien. Vous avez une équipe juridique également, ou par exemple qui peut prendre la suite.
Tout à fait. Moi, du coup, je suis la responsable de l'équipe juridique. On est quatre dans l'équipe. Et effectivement, on va travailler en coordination avec d'autres associations. Je pense par exemple à Anticor, qui peut avoir une action qui est complémentaire de la nôtre, qui, eux, vont plus être sur la partie résolution des fonds, des faits dénoncés de corruption. Donc, on va pouvoir travailler de commun, par exemple, sur un dossier pour qu'eux puissent aller au pénal aussi sur les faits dénoncés. Et nous, on va vraiment rester surtout, on a aussi d'autres actions, mais surtout sur le versant protection individuelle, même si jamais c'est aussi arrivé qu'on se soit produit en justice sur le fond d'une alerte. Le gros de ce qu'on fait, c'est vraiment sur la protection. Et du coup, on peut effectivement rediriger les gens aussi vers d'autres organismes pour qu'ils puissent avoir le maximum de protection, et aussi que les faits à l'origine de leur alerte soient résolus, puisque c'est quand même une problématique assez importante.
Dans le monde des médias, entre autres, on voit se multiplier les procès, dit procès Bayon, entre autres, depuis quelques années. Est-ce que vous avez aussi une augmentation du cas de lanceurs d'alerte et de lanceurs d'alerte menacés ?
Oui, tout à fait. L'augmentation est assez massive. On a beaucoup de personnes qui ont dans ces procédures dites Bayon pour les faire taire. Et le problème, c'est que l'état actuel du droit les protège très peu. En fait, ça permet juste actuellement de augmenter le montant de l'amende, mais pas vraiment de qualifier plus facilement une procédure comme abusive. Et l'impact aussi financier et psychologique de ces procédures n'est pour l'instant très peu pris en compte par la loi. Donc effectivement, cette augmentation des procédures Bayon qui touche les journalistes touche aussi les lanceurs d'alerte.
Merci beaucoup. Donc si jamais il y a des lanceurs, lanceuses d'alerte qui veulent vous contacter, il faut passer par le site internet, un téléphone, un mail.
Tout à fait. Sur notre site internet, il y a une plateforme sécurisée pour nous contacter en toute confidentialité.
Ok, ben merci Chloé. Donc c'était pour la Maison des lanceurs d'alerte. Ben, bon festival des médias indépendants à Rennes.
Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Élise. Bonjour Élise.
Bonjour Jocelyn.
Élise, tu vas donc nous présenter un média en ligne sur Sainte. Tu nous préciseras exactement où c'est, un petit peu comment ça se passe la vie à Sainte. Et donc ce nouveau média, c'est la Guillotine Synthèse. Donc est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu les origines de la Guillotine ?
Alors, la Guillotine Synthèse est issue du RRC. Après les élections pour les européennes et la montée de l'extrême droite, on s'est regroupé avec un petit groupe d'amis. On a eu très peur de tout ça et on a décidé de monter un réseau de résistance citoyenne sur Sainte. Et donc depuis, ce réseau fonctionne. On se rend compte à peu près une fois tous les deux mois sous forme d'atelier. Et dans le coup, la Guillotine Synthèse est née d'un des ateliers. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont nées du RRC. On a fait beaucoup d'actions concrètes sur le terrain. On a aussi créé des pages Insta, des pages Facebook. On compte faire des journées d'autodéfense où le matin on va apprendre des cours de self-défense et puis l'après-midi des droits, la défense des droits, notamment en manif. Enfin voilà, on a beaucoup de choses et donc la guillotine est issue du RRC.
Et donc, vous avez créé on va dire une commission, un groupe de travail autour de ce projet de médias, de cet atelier?
C'est ça. La guillotine a été créée le 27 avril 2025, donc on va bientôt fêter Noël, hein. On n'est que des bénévoles. On est une petite équipe, on a une équipe de rédacteurs, on a des rédacteurs externes aussi, beaucoup de rédacteurs et de rédactrices externes. On a une équipe de correcteurs et de correctrices, on a aussi une équipe de dessinatrices et de dessinateurs. Fonctionne généralement en collectif, on a une boucle où on travaille toutes et tous ensemble. Et ça fonctionne très bien.
Parce que toutes les personnes dont tu parles, elles sont toutes originaires ou habitantes à Saintes, ou c'est vraiment réparti, je ne sais pas, soit sur le département, la région, voire le territoire?
La plupart sont originaires de Saintes, effectivement, parce qu'on essaye de couvrir les activités locales, même si ça nous arrive d'élargir sur le national.
Et est-ce que tu pourrais quand même, parce qu'on est passé un petit peu rapidement dessus, resituer où se situe Saintes? Moi, je connais un petit peu parce que j'avais un ami membre d'un collectif contre le nucléaire militaire, la CDN, qui était à Saintes. Mais voilà, vite une petite situation
Eh
géographique.
bien, on est en Charente-Maritime, on n'est pas très loin de La Rochelle. Voilà, Saintes, c'est une moyenne ville, on a à peu près 25 000 habitants. On a fait l'actualité pour les inondations il y a quelque temps.
Et donc, au sein de ces 25 000 habitants, vous avez quand même réussi à créer une dynamique donc pour qu'elle ait lancé la guillotine synthèse. C'est assez
Oui,
impressionnant.
c'est ça. Alors, Saintes a une particularité, c'est qu'en pourcentage du nombre d'habitants, on est une des villes qui a quasiment le plus de nombre d'associations. Il y a un réseau associatif qui est très impressionnant. Alors, ils sont pas tous, on n'est pas tous dans le militantisme, mais il y en a quand même beaucoup.
Et donc, pour revenir à la guillotine, donc ça fait un an à peu près hein, que ça fonctionne. Et justement, comment est-ce que vous fonctionnez? Dites que, bon, au sein de votre réseau, vous réunissez une fois tous les 2 mois, mais je pense que pour la guillotine, c'est peut-être un peu plus. Ou alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un comité de validation des articles? Les propositions arrivent? Comment ça se passe après le choix de la publication?
Alors, c'est généralement, on fonctionne sur une boucle WhatsApp. On se réunit très rarement. On se croise assez régulièrement en dehors, de toute façon. Donc, on reçoit des propositions sur notre boîte mail. Et donc, effectivement, on a un petit comité qui valide et puis qui corrige aussi ensuite les articles. Parce que les articles doivent correspondre à nos valeurs.
Et du coup, qu'est-ce que vous publiez? Vous êtes dans de l'information locale, vous êtes dans des billets d'humeur, qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu justement que sur le site de la guillotine synthèse?
Alors, on retrouve pas mal de choses. Ça peut être effectivement de l'actualité locale, mais souvent, quand on traite l'actualité locale, on essaye justement d'élargir sur un sujet un peu plus national pour traiter un peu plus le fond du sujet. Sinon, on a pas mal aussi d'articles un peu avant-gardistes. Nous, on est un média libre et sans financement. Et dans le coup, ça nous donne l'avantage de pouvoir traiter tous les sujets dont on a envie de traiter. Et donc, on a quelques petits trucs qui sont assez avant-gardistes, comme la réparation. On a traité la réparation sur les inégalités femmes-hommes. Et on compte aussi traiter la réparation sur les prisonniers.
Oui, j'ai vu qu'il y avait un article justement aussi sur la prison de Saintes, un établissement sous
C'est
tension.
ça.
Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, moi on discutera un petit peu de la ligne éditoriale en même temps avec un ou deux exemples.
Ben, l'objectif, c'était de traiter un peu différemment tout ce qui est sur les articles sur les prisons, dont notamment des articles qui ont été rédigés par des médias locaux, ont un point de vue assez négatif. Donc, on voulait aussi rétablir les choses. Nous, on a voulu traiter ça sur le problème de la surpopulation, toutes les difficultés rencontrées par les personnes emprisonnées, mais aussi les gens qui travaillent autour de la prison, de montrer une figure beaucoup plus humaine que ce qu'on veut. Ce que les médias en fait montrent habituellement.
EDAS, c'est quoi? C'est comment vous avez travaillé? C'est un article? Vous avez pu rentrer en prison? Vous avez réussi à récolter des témoignages de prisonniers, prisonnières?
Non, non, non. On n'est pas rentré en prison. Par contre, on s'est appuyé sur des études, sur des témoignages de personnes qui peuvent avoir accès à la prison. Bon, après, on a une protection des sources, donc je ne peux pas en dire plus, mais voilà, les informations sont généralement sourcées, elles sont fondées.
Et on peut aussi renvoyer, là, il y a quelques semaines, au sein des autres voix de la presse, on avait justement reçu une personne qui venait nous présenter le journal L'Envolée. L'Envolée, donc justement, contre toutes les prisons, et qui publie régulièrement quand il n'est pas victime de censure de la part de l'administration. Donc ça, c'était un des articles sur les prisons. Vous travaillez que le local, et quand vous travaillez sur d'autres thématiques, comment est-ce qu'elles sont choisies? Je sais pas, c'est en réaction à l'actualité nationale ou sur un sujet que vous avez envie d'aborder?
Non, généralement, on n'est pas très, on réagit pas aux actualités, rarement aux actualités nationales, hormis effectivement pour toute le génocide à Gaza, où on a fait pas mal d'articles parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation à Sainte, il y en a encore d'ailleurs. Donc on a aussi couvert, fait un article pour la mobilisation du 14 mars contre le fascisme, le racisme et les violences policières. Mais en règle générale, on ne traite pas l'actualité chaude. On est plutôt sur des articles de fond.
Et dans votre rythme de publication, vous vous êtes imposé un rythme quotidien, hebdomadaire, plusieurs articles par semaine, ou alors c'est un peu selon les disponibilités, ce qui arrive?
C'est effectivement selon les disponibilités. On est souvent l'équipe, on est souvent engagé sur d'autres associations. Enfin, le planning est un peu compliqué. Donc non, on n'a pas de programmation spécifique.
D'accord. Et là, je vois, il y a un article justement sur les crues de la Charente qui vous impose de changer de modèle immobilier. Donc là, c'est avec Nicolas Framont. C'est Nicolas qui s'est penché sur votre cas spécifiquement, ou c'est un lien justement avec un article qui vous concernait directement au vu des crues?
Non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas fait partie du IRC. C'est un ami. Donc voilà, il s'est proposé de rédiger cet article pour la Guillotine.
Donc, je n'avais pas précisé, ouais, Nicolas Framont, donc, qui est du média Frustration
Magazine.
De très très bons articles contre le capitalisme, puis beaucoup d'autres choses à dénoncer. Vous faites uniquement une version Internet, il n'y a pas de version papier de la Guillotine Synthèse?
Pas encore, mais ça fait partie des projets à venir. On aimerait bien faire au moins un numéro annuel.
Et parmi ce que vous affichez quand même tout de suite, hein, sur le menu déroulant aussi, c'est les luttes antifa et féministes. C'est des luttes que vous portez régulièrement sur Sainte?
Oui, oui, oui. Même si effectivement il n'y a pas énormément d'articles sur la thématique pour l'instant, mais on se mobilise à Sainte assez souvent.
Et ce que j'ai apprécié aussi, c'était la carte des points de collage d'affiches en Charente-Maritime, un appel à collage, mais légal. Là, c'est les lieux légaux, hein, que vous listez sur cette carte.
Oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement. On a, avec le RRC, on a quelques ateliers de collage. C'est important l'expression justement dans la rue. C'est une forme d'expression qui est gratuite et on doit inciter les gens à le prendre, à s'en emparer.
Oui, c'est ça, pour toute forme un peu d'expression, parce que est-ce que vous proposez justement, je sais pas moi, des versions journal mural de la Guillotine?
Non, pas encore, mais c'est une bonne idée.
Ok, donc la Guillotine Synthèse, donc dans votre région, si vous êtes formé, je pense c'est parce qu'il y a certainement un manque également d'informations alternatives. Vous êtes un peu dans un vide, enfin certains appellent des déserts médiatiques, certains lieux où il y a de moins en moins de médias, mais est-ce qu'il y a une présence d'autres médias alternatifs dans le secteur de Sainte, La Rochelle?
Pas à ma connaissance.
Parce que c'est vrai que c'est une zone que je ne connais pas très bien et je n'ai pas beaucoup de références. Et c'est vrai que des fois, bon, il y a des petites choses qui se font, sont en version papier, quand on met vraiment des médias de proximité que du coup on a du mal un peu à découvrir.
Non, 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 pas à ma connaissance. Je sais qu'on avait fait un article en lien avec qui a été relayée sur l'âge de fer. Mais l'âge de fer n'est pas non plus dans notre secteur.
Oui, c'est ça, l'âge de fer. Donc c'est plutôt un média, on va dire, qui diffuse au niveau national et qui est souvent sur des alternatives locales. Mais c'est vrai que c'est pas un média de Sainte. Une question qu'on n'a pas abordée, c'est le choix du titre du média, donc la guillotine synthèse. Hein. Vous préconisez d'aller faire un tour pour se renseigner sur savoir qui était le docteur Guillotin. Écoute, je vais te laisser un peu nous expliquer ce choix.
Oui, alors on nous reproche souvent l'utilisation du terme la guillotine, mais nous, notre objectif, c'est effectivement de ne trancher que des concepts, le capitalisme, l'antiféminisme, le fascisme, enfin voilà. Il faut savoir que Guillotin est originaire de Saintes, et contrairement à ce qu'il en est dit, Guillotin n'est pas du tout l'inventeur de la guillotine, elle existait depuis longtemps, et Guillotin était au contraire un grand humaniste. C'est aussi l'inventeur de la première pétition. Si la guillotine porte le nom du docteur Guillotin, en fait, c'est de la diffamation. Ses détracteurs politiques ont trouvé judicieux de l'associer à un élément de torture, alors qu'il a toujours défendu la peine de mort. Son objectif à lui, c'était en fait que chacun était... que les riches comme les pauvres devaient mourir de la même façon, qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait un traitement de faveur pour les riches.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait différents modes de mise à mort selon la classe sociale à laquelle on appartenait.
C'est ça. Si les bourgeois avaient droit effectivement à la guillotine, qui était une mise à mort plus rapide et moins douloureuse, entre guillemets, les classes populaires avaient droit à des sévices atroces, des écartèlements, voilà.
La guillotine synthèse, donc, c'est le média aux idées tranchées donc, à Saintes, hein, depuis bientôt un an. Vous avez également une charte éditoriale, donc ça me fait penser, vu que vous en parlez, que votre ligne éditoriale, c'est l'écologie, le terroir. Vous avez vous êtes confronté à des gros problèmes d'écologie dans le secteur ?
On est un secteur rural, donc effectivement, où on n'est pas loin de Cognac. Donc toute l'agriculture et les pesticides sont un vrai problème pour la santé publique. Et puis on n'est pas loin effectivement aussi de La Rochelle, qui connaît une augmentation des cancers pédiatriques très importante due aussi aux pesticides.
Pour continuer un petit peu dans la région, les localités, comment ça s'est passé aux dernières élections municipales? Il y a un fort taux de vote RN, extrême droite confondu, ou est-ce qu'il y a comme une diversité, puis on va dire quand même encore une autre force politique localement?
Alors nous à Saintes, on a eu la chance de ne pas avoir de liste RN. Ils sont pas suffisamment implantés. Par contre, dans les petits villages alentours, le RN progresse et notre objectif, c'est effectivement aussi d'aller, moins par rapport à la guillotine, mais plutôt avec le RRC, d'aller dans les villages. Essayer de justement de rassurer les gens, de leur expliquer l'accès aux services publics, de leur donner des informations. Voilà, on essaye d'aller contrecarrer tout ce qui est diffusé par des médias, les médias d'extrême droite.
Parce que localement, vous avez quoi? Un média, la presse quotidienne régionale, ou vous avez une diversité autre?
Non, localement, on n'a pas grand-chose. Il y a Sud-Ouest qui est très implanté, la Haute-Saintonge aussi. Sinon, voilà, c'est tout.
Pour les auditeurs, auditrices qui voudraient découvrir la guillotine synthèse, le média aux idées tranchées, donc en rappel, hein, c'est à Saintes, pas loin de La Rochelle, Cognac, justement se renseigner, découvrir votre site. Le site, c'est guillotin.info. Merci beaucoup, Élise, et puis on va suivre un peu ce qui se passe sur Saintes avec la guillotine.
Avec plaisir, merci beaucoup.
C'était Les Autres Voix de la Presse avec Chloé pour la Maison des Lanceurs d'Alerte et Élise pour Guillotine Média. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?